Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de ce numéro de Vivante Église. Le 8 décembre 1965 se terminait le Concile Vatican II, ouvert 3 ans plus tôt le 11 octobre 1962. Nous fêtons donc en 2025 le 60e anniversaire de la clôture de cet événement considérable dans l'histoire de l'Église catholique romaine. À cette occasion, les Dominicains de Toulouse lui consacrent un cycle de conférences dont la première a lieu ce jeudi 25 septembre. Nous allons vous le présenter au cours de cette émission. Et pour vous présenter ce cycle passionnant et les thématiques qui vont y être abordées, j'ai invité celui qui en est à l'origine et en quelque sorte le coordinateur, le frère François Daguet, docteur en théologie et membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs à Toulouse. Bonjour frère François et grand merci d'avoir répondu à mon invitation.
Bonjour et merci pour cette invitation.
Bien sûr, avant de présenter avec vous ce cycle de conférences et les 9 rendez-vous que vous proposez au couvent des Dominicains à Rangueil, il faut qu'on revienne sur l'événement que j'évoquais dans mon introduction, ce 2e concile œcuménique du Vatican, qu'on a coutume d'appeler plus simplement Vatican II. Bien qu'on en entende souvent parler, je ne suis pas certain qu'il ait été bien compris, et encore même aujourd'hui. Pourquoi est-il ouvert en octobre 1962 sous le pontificat de Jean XXIII et avec quels objectifs? Il faut peut-être rappeler au préalable que le premier concile œcuménique organisé au siècle précédent, fin 1869 puis interrompu un an plus tard, avait laissé un certain nombre de questions en suspens, notamment concernant le magistère de l'Église.
Oui, si on prend même un peu plus de champ, il faut constater, on le voit avec le recul que nous avons, que, en fait, dès le début du XIXe siècle, il y a une extraordinaire effervescence théologique qui saisit l'Église catholique, qui n'est pas bien en point, hein, puisqu'on est en train de vivre la rupture du régime de chrétienté. Et déjà, depuis donc grosso modo le premier tiers du XIXe siècle, hein, il y a une réflexion qui est engagée par l'Église sur elle-même, avec des théologiens extrêmement brillants, de très grande envergure et qui vont beaucoup marquer leur époque. Et le premier concile du Vatican que vous venez de mentionner, c'est en quelque sorte un premier résultat déjà de cette effervescence. Il est convoqué par le pape Pie IX et, comme vous l'avez dit, il ne va pouvoir finalement poursuivre ses travaux que pendant 6 mois, puisque à la fois les combats autour de l'indépendance italienne d'une part et la guerre franco-allemande d'autre part lui font suspendre ses travaux au printemps 1870 et ils ne seront pas repris. Donc finalement, c'est une œuvre très inachevée. Les débats de Vatican I ont été très intéressants, de très grande qualité. Hein, déjà, et Vatican II, d'ailleurs, s'en servira. Mais enfin, voilà, c'est une œuvre inachevée. Et alors, cette effervescence théologique dont je vous parlais, qui est très centrée sur l'Église, va continuer, bien entendu, au contraire même accélérée, je dirais, par le premier concile du Vatican, et va couvrir l'essentiel du XXe siècle. En tout cas, jusqu'au second concile du Vatican, qui donc, comme vous l'avez dit, va se tenir à partir de 1962. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que de se rappeler que lorsque Jean XXIII est élu pour succéder à Pie XII en 1958, personne ne songe à la tenue d'un nouveau concile. Et c'est très intéressant parce que Jean XXIII lui-même a dit comment ça lui est venu. Hein. C'est au terme de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens de 1959, de janvier 59, qu'il a reçu en lui-même vraiment cette motion très forte qu'il fallait convoquer un concile. Ça a été une énorme surprise. Et donc, il a écrit une encyclique quelques mois après, hein, sur la chaire de pierre, Ad Petri Cathedrale, et dans laquelle il annonce justement la convocation de ce concile, et surtout, il explique pourquoi. Et vous voyez, si je fais ce petit détour sur les origines premières, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'un des premiers thèmes, un des thèmes majeurs du concile, c'est la quête de l'unité des chrétiens. Cela habitait complètement, enfin, tous les papes, mais en particulier Jean XXIII et ses successeurs, ce sera pareil. Et c'est vraiment un des grands motifs. Alors, lié à cela, et c'est ça qui est intéressant, en même temps, Jean XXIII expose 2 grands axes de travaux pour le Concile. Premièrement, un exposé cohérent de l'ensemble des vérités de la foi chrétienne, en particulier sur l'Église. Hein, donc les vérités de la foi, il faut rappeler que justement, à l'exception de Vatican I, il n'y avait jamais eu de concile sur l'Église dans toute l'histoire de l'Église. Hein. Donc c'est la première fois qu'au fond, l'Église va parler d'elle-même. Et puis deuxièmement, d'autre part, hein, ce qu'il a appelé l'aggiornamento, hein, formule qui souvent a été mal comprise, qui consiste simplement, comme il l'a expliqué amplement, à envisager un renouveau de la vie de l'Église pour que elle soit dans sa vie plus adaptée, non pas forcément plus en phase avec le monde contemporain. Il ne s'agit pas d'aligner l'Église sur le monde, comme certains ont voulu le faire ou le penser, mais simplement qu'elle ait un discours aussi qui soit adapté à l'état du monde contemporain, qui évidemment, dans les années 60, a beaucoup changé. On sait ce qui s'est passé au XXe siècle avant la tenue du Concile. Donc c'est ces deux grands objectifs au service de la quête de l'unité des chrétiens. Et Paul VI, qui, comme vous le savez, succède à Jean XXIII au printemps 1963, reprend évidemment ses objectifs en les développant, et il va présider la tenue du Concile d'une façon admirable d'ailleurs, en étant une instance de présidence d'un collège, celui des évêques, mais en même temps exerçant pleinement son rôle de président, et on va aboutir donc à cette œuvre, comme vous avez dit, considérable finalement, dans l'Église et sur l'Église.
Donc Jean XXIII convoque officiellement le concile le 25 décembre 1961 par une bulle d'indiction dont le titre était « Humane Salutis » et y fixe le 2 février 1962 la date de la première session au 11 octobre de la même année qui vont être les participants de ce concile Vatican II parce qu'on parle d'événements considérables mais aussi un nombre de participants tout aussi considérable.
Eh bien oui, parce qu'un concile œcuménique, il réunit l'ensemble des évêques de l'Église catholique et également des représentants aussi d'autres confessions chrétiennes, bien entendu. Ce qui fait que les participants sont environ au nombre de 2500. On a sans doute vu ces photos de Saint-Pierre de Rome avec des gradins installés à l'intérieur, réunissant, c'est évidemment magnifique, splendide, avec la petite silhouette, n'est-ce pas, de Paul VI ou de Jean XXIII au cœur du dispositif. Donc, c'est une assemblée considérable et qui va donc se réunir 4 années de suite.
Et donc, il y a 4 sessions plénières.
Voilà, qui couvrent automne-hiver, si vous voulez, octobre-décembre, donc 62, 63, 64, 65. Évidemment, pendant l'intercession, on continue de travailler, des commissions ont été créées et on prépare la session suivante. Bien entendu, on ne chôme pas. Donc, c'est une œuvre absolument considérable. C'est 2500 personnes, 2500 évêques. Et puis, il y a également les experts qui accompagnent les évêques, des théologiens.
Ce qu'on appelle les périti.
Voilà, exactement. qui contribue justement à ces travaux. Ce qui fait que, on le dit assez peu, mais matériellement parlant, c'est une organisation absolument inouïe. Et petite remarque incidente, si vous voulez, aujourd'hui, pourrait-on réunir un nouveau concile, dans des conditions semblables? Aujourd'hui, il y a plus de 5000 évêques maintenant dans le monde, c'est-à-dire plus du double que ce qu'il y avait à Vatican II. Je ne suis pas sûr qu'on pourrait se livrer à une semblable tenue, si vous voulez.
Alors, concernant l'organisation et le déroulement des débats et des travaux, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 10 commissions. Tout est traité à l'intérieur de 10 commissions qui sont présidées, pour certaines, par des cardinaux.
Oui.
Et donc, elles sont toutes dédiées à des sujets bien précis.
Voilà. Alors, en fonction des sujets à traiter, on réunit les commissions ad hoc qui travaillent, qui préparent tout simplement des projets de texte. Et les projets de texte, après, sont débattus. Et finalement, en séance plénière, puisque chaque texte doit être voté par l'ensemble des participants. C'est ça qui est très beau, c'est que, alors c'était un labeur extraordinaire dont on n'a pas idée aujourd'hui, mais c'est que Paul VI en particulier, puisque c'est surtout lui...
qui prend le relais à partir de 63.
Qui prend le relais, voilà, et donc pour le vote des textes intervient à partir de l'automne 63, donc c'est lui qui va être le président. Paul VI n'a eu de cesse de susciter les plus grosses majorités, si vous voulez, c'est-à-dire, non pas du tout pour avoir des votes à la soviétique, si vous voulez, mais pour que ce soit significatif de l'adhésion la plus massive et à plusieurs reprises considérant que la majorité qui avait été atteinte n'était pas encore satisfaisante, ça montrait que le texte ne suscitait pas un consensus assez grand. Il demandait aux évêques de reprendre le travail pour aboutir à un consensus plus grand. Ce qui fait qu'effectivement, tous les textes ont été votés à des majorités absolument écrasantes, supérieures à 95%.
Ah, il me semble important de rappeler les 4 objectifs que Paul VI assigne au Concile dans son discours d'ouverture de la seconde session. Donc, l'approfondissement de la doctrine de l'Église, le renouveau de l'Église à travers un retour à ses traditions les plus authentiques et fécondes, et là je le cite, ainsi que la recomposition de l'unité entre tous les chrétiens, vous en avez déjà parlé, et l'ouverture d'un dialogue avec le monde contemporain. Ouais. Donc voilà les 4 grands objectifs du Concile que lui assigne Paul VI. Les sujets qui vont être traités, on peut peut-être y revenir un peu plus en détail. Bon, il y a par exemple l'Église comme sacrement, l'Église comme peuple.
Bah, c'est d'abord, j'allais dire, l'Église en elle-même. Je vous le disais il y a quelques instants, il n'y a jamais eu de concile sur l'Église. Et donc, c'est la première fois, c'était d'ailleurs une des paroles de Jean XXIII à la première session, il s'adressait aux évêques en leur disant « Alors Église, que dis-tu de toi-même » voyez ? Donc l'Église va présenter son propre mystère, ce qu'elle est. C'est ce qui va faire l'objet du premier texte quand on ouvre le recueil des textes du Concile, même s'il ne sera voté qu'en 1964, de la Constitution Lumen Gentium, la lumière des nations, qui est le Christ, qui présente finalement l'Église dans son mystère, ce qu'elle est. Et c'est à l'intérieur de ce texte, dans cette présentation de l'Église mystère, si vous voulez, qu'on va parler de l'Église comme peuple de Dieu, comme corps du Christ, comme temple de l'Esprit Saint, etc. Et puis qu'on va traiter bien d'autres aspects.
Oui, parce qu'il y a la question des laïcs aussi, la Vierge Marie aussi.
Les états de vie dans l'Église, le rôle et la place de la Vierge Marie dans l'Église, bien sûr, qui clôt la Constitution Lumen Gentium. Donc, c'est un texte absolument considérable. C'est la grande constitution dogmatique sur l'Église. Vous aviez évoqué Vatican I. On avait commencé à le faire à Vatican I, mais finalement, compte tenu de l'interruption des travaux, on n'avait plus parlé que du ministère du successeur de Pierre. C'est là qu'on avait, en particulier, défini les conditions très restrictives, d'ailleurs, de l'engagement de l'infaillibilité pontificale, mais on n'avait parlé que du pape. On n'avait pas parlé des évêques, etc. Donc, par exemple, justement, l'Église à Vatican II va préciser le sens, le rôle du collège des évêques par rapport au pape. On n'a pas idée, mais ce sont des questions qui, au fond, étaient pendantes, mais depuis la période médiévale, dans certains cas.
Et qui n'avaient jamais été tranchées, ni creusées,
Non, il y avait eu des débats. Il y avait eu la grande querelle conciliariste, si vous voulez, au XVe siècle. Au fond, la question est toute simple. Qui détient l'autorité suprême dans l'Église? Est-ce le pape ou est-ce le collège des évêques? Eh bien, la réponse du Concile Vatican II, c'est de dire les deux, sachant que le Collège des évêques est présidé par le pape lui-même, par l'évêque de Rome, mais les deux sont détenteurs de l'autorité suprême, évidemment, moyennant des relations qu'il faut préciser. C'est la première fois qu'on explicite les choses de cette façon-là. Vous évoquiez, par exemple, les différents statuts, si vous voulez, les différentes positions des membres de l'Église. Eh bien, la Constitution Lumen Gentium, donc sur l'Église, va très clairement préciser, dire, ben voilà, fondamentalement, les membres de l'Église, ce sont les fidèles, ce sont les baptisés. Bon, avec tout un développement sur ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal. Et au service de tout cela, et à part cela, le Seigneur met à part deux catégories de personnes, les ministres ordonnés, qui sont au service de tous les fidèles, et puis les religieux, qui ont une vocation sur tout témoignage de la présence du royaume, pour simplifier. Voilà, ça paraît tout simple, tout est très en place depuis le Concile, c'est la première fois qu'on le dit aussi nettement, aussi clairement, et j'allais dire, avec un tel équilibre. Ce qu'il faut dire, c'est que, historiquement, si vous voulez, il n'y avait pas eu de grand texte, nous l'avons dit, magistériel, du magistère suprême de l'Église sur elle-même, mais la théologie de contre-réforme, répondant aux contestations des réformés, sur sa structure hiérarchique, sur son économie sacramentelle, etc., avait conduit la théologie catholique, si vous voulez, à être quelque peu déformée, et notamment en survalorisant, en mettant à la première place toujours l'Église dans sa structure hiérarchique. Eh bien, Vatican II remet les choses en ordre. L'Église, c'est d'abord les fidèles. La hiérarchie est au service, ce qu'on appelle la hiérarchie, les prêtres, les évêques, les diacres, sont au service des fidèles pour qu'ils puissent vivre de leur vocation baptismale, qui est une vocation à la sainteté et qui vaut absolument pour tous les fidèles, ministres ou laïcs ou religieux.
Un des sujets qui va être aussi au centre des réflexions du Concile Vatican II, c'est la liturgie. La liturgie, l'écriture sainte et la révélation,
oui,
qui vont faire l'objet aussi de textes très importants
qui comptent encore beaucoup aujourd'hui, bien sûr. Les deux thèmes, la liturgie et la révélation chrétienne, sont l'objet également de deux autres constitutions. Les plus grands textes s'appellent des constitutions, il y en a quatre, donc on a déjà parlé de Lumen Gentium. Il va y avoir effectivement le texte sur la liturgie. Alors c'est le premier qui soit voté à la session 1963. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, alors que le thème de la liturgie, comme chacun sait, a suscité tellement de remous après le Concile, eh bien, il faut voir que ce grand texte sur la liturgie, qui est magnifique, qui est porteur de toute une rénovation, une réforme indiscutablement de la liturgie de l'Église, et pas seulement celle de la messe, mais également la discipline des sacrements, des choses comme ça, a été votée à une immense majorité et avec des débats finalement très sereins. Je veux dire, on est frappé, si vous voulez, que par la différence qu'il y a entre la relative sérénité du Concile à propos de la liturgie et les querelles autour de la liturgie après le Concile. Mais ça se produit souvent, si vous voulez, dans l'histoire des conciles, ou alors tel thème qui va susciter lors du Concile des oppositions extrêmement fortes, il y en a eu à telle ou telle occasion, c'est pas la peine de rentrer dans les détails, au fond, après le Concile, n'en suscite plus aucun. C'est très curieux, mais c'est souvent comme ça. Donc la liturgie, en 63, donc le porteur de toute cette rénovation, vous voyez qui fait partie de cette rénovation ecclésiée, vous l'évoquiez avec Jean XXIII, avec Paul VI, indiscutablement. Par exemple, il y a un renouveau, non seulement dans la liturgie, mais le renouveau également dans la vie religieuse, si vous voulez, qui va être suscité par cela, la vie des ordres religieux, l'aménagement de l'office liturgique, etc. Bien. Et puis, donc, vous évoquez également la révélation divine, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'Église, tout commence, si j'ose dire, avec le fait que Dieu parle. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, disait souvent
ça. Qui était ça, présent d'ailleurs à Vatican II.
Qui était absolument, qui était un expert.
Mais qui faisait partie
des Ratzinger, déjà oui. Très brillant, accompagnait son évêque. Et souvent, il disait, mais voilà, tout commence par la parole de Dieu qu'il s'agit d'entendre. Alors, la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'Écriture? C'est la tradition? Quel rapport entre l'Écriture et la tradition? Voilà des questions qui, au fond, n'étaient pas clarifiées véritablement à la veille du Concile, et qui vont faire l'objet de la Constitution, donc Dei Verbum, sur le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, et ce sera l'objet de notre première conférence.
Autre sujet au centre de Vatican II, et ça c'était vraiment la volonté de Jean XXIII, je crois, au départ, c'est l'Église et le monde.
Quelle place
pour l'Église, quelle relation pour l'Église avec le monde de son temps?
Bien sûr. Il faut bien prendre conscience que, là encore, avec le recul du temps, n'est-ce pas, au fond, Vatican II... C'est le grand concile, je considère Vatican I comme une espèce d'étape préparatoire, si vous voulez, Vatican II. C'est le grand concile des temps nouveaux, c'est-à-dire de la sortie des temps de chrétienté. N'oublions pas que l'Église a vécu bon an, mal an, hein, en étant dans beaucoup, pendant presque un millénaire et demi, je dirais, dans un régime de chrétienté, ce qui veut dire, je veux simplement dire par là, que les sociétés humaines s'édifiaient avec comme matrice intérieure le christianisme. Bon, qu'on le veuille ou non, plus ou moins approfondi, mais enfin, c'était le modèle, si vous voulez, dans lequel on vivait et qu'on cherchait surtout à étendre, et qui a prévalu jusqu'à la Révolution française. Alors, on ne sort pas de la chrétienté en quelques instants, en fait, c'est un mouvement, un phénomène qui va, un grand mouvement qui va couvrir presque un siècle et demi, jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais enfin, c'est bien de cela qu'il s'agit. Et donc, vous voyez, le fait que désormais, les sociétés civiles s'édifient sur des bases profanes, c'est-à-dire indépendamment de la révélation chrétienne, ce qui était impensable hein, en temps de chrétienté. Mais enfin, c'est le fait que depuis le pape Léon XIII, il faut bien prendre en considération, conduit nécessairement, un, l'Église à dire, mais alors du coup, qu'est-ce que je suis hein, je ne suis plus seulement ou d'abord la matrice des sociétés humaines. Qu'est-ce que l'Église en elle-même? Ça, nous en avons parlé, mais également, quelle relation avec les sociétés civiles, les sociétés humaines, et donc la relation avec le monde, pour dire les choses simplement. Alors ça, évidemment, c'était au cœur des préoccupations de Jean XXIII, de Paul VI, et puis de tous les papes, puisque, bien entendu, l'Église nécessairement s'adresse, évidemment, aux chrétiens, c'est pas de l'égoïsme, mais évidemment, à le désir de s'adresser à tous les hommes, parce que le Christ est le sauveur de tous les hommes.
Alors, seront abordées aussi les questions de l'écuménisme, de la liberté religieuse, des relations avec les autres religions. Après Vatican II, quelles vont être les réactions? Alors que ce soit les réactions à l'intérieur du monde chrétien, mais aussi à l'extérieur.
Alors, d'abord à l'intérieur du monde chrétien. Bon, je crois que tout le monde a perçu d'emblée que c'était un événement considérable, que ces textes étaient d'une richesse folle, si vous voulez, et il ne faut pas du tout croire que ce don, hein, car je crois que le Concile, fondamentalement, même si c'est une œuvre humaine, est aussi un don de l'Esprit-Saint, va être assimilé du jour au lendemain. Hein. C'est d'ailleurs bien pour ça que nous en parlons encore et on n'a pas fini d'en parler. Donc, je crois qu'on n'a pas perçu forcément sur le coup toute l'ampleur, si vous voulez, de l'œuvre et toute sa portée, tout ce dont elle allait être le moteur. Mais bon, on avait bien conscience que c'était un événement considérable. Donc ça a été évidemment reçu comme un très grand événement. Nous évoquions ensemble cette parole célèbre du général de Gaulle,
n'est-ce pas ? Oui, que je peux citer. Voilà. Hein, nous sommes en 68, donc 3 ans grosso modo après la fin de Vatican II. Et le général de Gaulle échange avec le nouvel archevêque de Paris, qui était Monseigneur Marty, originaire de notre région, et lui dit « Le Concile Vatican II est l'événement le plus important du siècle, car on ne change pas la prière d'un milliard d'hommes sans toucher à l'équilibre de toute la planète. »
Bon. Ce qui représente une lucidité, une fois de plus, si vous voulez, dans l'appréciation des choses ici chrétiennes, mais évidemment, c'est un grand chrétien qui parle. Donc, perception d'un événement considérable. Alors, bien sûr, les interprétations à l'intérieur de l'Église, ou les réactions dans le monde chrétien, en tout cas, vont être... Déjà, au moment du Concile lui-même, je cite un peu Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI après, disait, ben, il y avait la réalité du Concile, c'est-à-dire avec, effectivement, bon, voilà, le travail réel, et puis il y avait ce qu'il appelait, ça va vous faire sourire, le Concile des médias, ce que l'on en disait, et qui, souvent, n'était pas du tout en phase, ou pas complètement en phase, loin de là, d'ailleurs, avec la réalité même.
Bon,
évidemment, ceci a continué, si vous voulez, après le Concile. Et au fond, on voit très bien qu'il y a eu, maintenant on a 60 ans de recul, hein, finalement, et il y a toujours d'ailleurs deux types, si vous voulez, un petit peu de réactions extrêmes, si vous voulez, d'un côté ou de l'autre. D'un côté, il y a ceux qui invoquent, combien de fois on en a entendu parler, le fameux esprit du Concile. Il s'agit de vivre de l'esprit du Concile au-delà de la lettre. Et donc, au nom de l'esprit du Concile, bien souvent, on a voulu lui faire dire ce qu'il ne disait pas. Tout simplement, aller très au-delà de ce qu'il disait, ce qui est une trahison du texte, parce que quand même, un texte conciliaire, c'est le magistère le plus suprême de l'Église, concile œcuménique, ce n'est pas fréquent. Au nom de l'esprit du Concile, on a voulu et on a prétendu justifier quantité d'aménagements, de mises à jour, etc., qui n'étaient pas du tout du Concile. Et puis d'un autre bord, comme vous le savez, bien sûr, et les deux bords s'exaspérant mutuellement comme d'habitude, vous avez toute une frange, évidemment traditionnaliste extrême, si vous voulez, disons intégriste, pour qui, assez rapidement après le Concile, mais pas sur le coup, c'est ça qui est intéressant, en général c'est quand même quelques années après, pour qui, bon, au fond, le Concile est devenu la cause de l'appauvrissement de l'Église dans les sociétés contemporaines. Et en substance, notamment, cette volonté œcuménique, ce désir de l'unité des chrétiens a abouti, dit-on, n'est-ce pas, à faire entrer l'esprit du protestantisme dans l'Église, et ainsi, en quelque sorte, l'Église catholique a scié la branche sur laquelle elle était assise, et si elle est en si mauvais état, elle n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Bon, on connaît ce genre de raisonnement, tout ça évidemment n'est pas sérieux, directement contraire au texte à nouveau du Concile, on lui fait dire ce qu'il ne dit pas, et vous voyez que ces deux tendances, si vous voulez, encore une fois, s'agaçant l'une l'autre, au fond, sont les deux contraires dans le même genre. Et le genre commun, c'est celui de méconnaître la réalité même du Concile Vatican II et ses textes.
Après avoir fait tous ces rappels concernant le déroulement de Vatican II et les questions traitées lors du Concile, nous allons faire une pause musicale dans cette émission. Nous présenterons ensuite les thèmes que vous abordez dans le cycle de conférences que vous lui consacrez au couvent des Dominicains. En attendant, je vous propose d'écouter le début du Magnificat de Jean-Sébastien Bach.
Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la suite de ce numéro de Vivante Église. Je suis toujours en compagnie du frère François Daguet, docteur en théologie, membre de l'Ordre des Frères Prêcheurs à Toulouse, avec qui il organise au couvent des Dominicains à Rangueil un cycle de conférences dédié à Vatican II à l'occasion du 60e anniversaire de la fin du Concile. Nous avons rappelé en première partie d'émission comment celui-ci s'était déroulé et les questions qui avaient été abordées. Ce cycle de conférences, dont la première a lieu ce jeudi 25 septembre à la salle du chapitre à 20h30. Comment l'avez-vous conçu, frère François? Dans quel esprit et avec quel objectif général?
L'objectif et la conception d'ensemble, c'est très simple. Il s'agit d'essayer de faire connaître justement les textes du Concile pour ne pas rester dans des a priori ou
des approximations
ou de l'invocation de textes qu'on ne connaît pas ou qui conduisent à faire dire au Concile qu'il ne dit pas d'une façon ou d'une autre. Donc, parce que, vous voyez, il faut bien prendre conscience, et c'est tout à fait normal, qu'on n'assimile pas du jour au lendemain une œuvre aussi considérable. Hein. Il faut du temps, l'Église est un vivant, et nous le savons tous d'ailleurs, chacun personnellement, on peut recevoir quelque chose dans son crâne, le lire, mais ensuite il faut que ça pénètre le corps entier.
Que ça s'imprime.
Et ça ne s'assimile pas du jour au lendemain. J'avais été très frappé, Jean-Paul II, à la fin de son pontificat, disait « L'Église commence tout juste à s'approprier le Concile Vatican II ». C'est parfaitement juste, et c'est parfaitement juste encore aujourd'hui.
C'est ce que je disais dans mon introduction, il y a des incompréhensions qui perdurent encore aujourd'hui.
Alors, il ne faut pas en être trop surpris, hein. Encore une fois, quand vous voyez, par exemple, les conciles des premiers siècles de l'Église, centrés sur le mystère du Christ et le mystère de la Trinité, il a fallu des siècles, si vous voulez, pour que le corps de l'Église se les approprie véritablement, comme ils sont aujourd'hui les socles, évidemment, de notre foi en Dieu, un et trinitaire, et en le Christ Jésus. Ben, vous voyez, vis-à-vis de l'Église, je crois qu'on est à peu près dans la même situation. On est au lendemain d'une œuvre considérable, Vatican I, Vatican II, il va falloir beaucoup de temps pour se les approprier. Alors, donc, ce qui nous a guidés, c'est tout simplement de faire connaître, alors évidemment, très simplement, c'est ouvert à tous, disons, on en a retenu sept des textes les plus importants du Concile Vatican II. Vous savez qu'il y a différentes catégories de textes à Vatican II. On a déjà évoqué les quatre constitutions, qui sont les textes les plus importants. Ensuite, il y a des décrets qui sont souvent des développements de points abordés dans les constitutions, mais qui appelaient justement des développements ultérieurs. Et puis, il y a également trois déclarations qui s'adressent non seulement, si vous voulez, aux chrétiens, mais en particulier au monde. C'est pour ça que peut-être pas la même autorité dogmatique qu'un décret ou qu'une constitution, mais qui cependant sont des textes très importants. Donc, tout simplement, on commence par les quatre constitutions qu'on a déjà évoquées précédemment.
Je précise que toutes les conférences ont lieu à 20h30 à la salle du chapitre du couvent des Dominicains à Rangueil. Donc le lieu, ça sera toujours le même, l'horaire aussi. Ce qui va changer évidemment, ce sont les sujets et les intervenants. Et l'agenda, on va le décliner avec vous. Donc ça commence ce jeudi 25 septembre avec Dei Verbum. Et c'est le frère Henri Donneau qui va prononcer cette conférence.
Du couvent.
Quel est le sujet? Parce que quand on dit Dei Verbum, pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose.
Ce que nous évoquions il y a quelques instants, c'est-à-dire le thème de la révélation divine. Donc c'est un texte, comme tous, d'une très grande richesse. Et donc le frère Henri Donneau va développer, comme il l'entendra, tel ou tel point, un peu centraux justement sur l'écriture, sur la tradition dans l'Église. Que représente la tradition avec un grand T? Vous savez, c'est une notion qui aujourd'hui est loin d'être bien comprise.
Oui, quand on parle de tradition avec un grand T, effectivement, pour beaucoup de gens, qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà, exactement.
Qu'est-ce qu'on met derrière?
Réponse demain soir, si vous voulez, enfin en tout cas pour certains.
Donc il y a six chapitres, dans cette constitution dogmatique sur la révélation divine, qui font le point sur la manière dont Dieu se révèle à l'homme dans les Saintes Écritures.
Et oui, parce que je me permets de rappeler que le propre du, je dis bien, judéo-christianisme, si je puis dire, j'associe évidemment, sans unifier totalement, mais bon, le judaïsme au christianisme, c'est une religion révélée, c'est-à-dire que Dieu se révèle et Dieu parle aux hommes. Pour nous chrétiens, ce sont les seules religions que nous reconnaissions comme telles. Et donc, que dit-il? Dieu parle, évidemment, ses paroles sont pour une part consignées dans l'Écriture, mais il n'y a pas que l'Écriture, justement. Il y a également la tradition. Voilà. Donc, il s'agira de préciser, en particulier, le rapport entre les deux et l'usage qu'il convient de faire, si vous voulez, de ce qu'on appelle la tradition de l'Église, donc la façon dont l'Église elle-même a porté, assimilé, compris la parole de Dieu au cours de sa vie.
Donc, les conférences vont s'enchaîner assez rapidement, deux semaines plus tard, le 9 octobre. Là, vous allez aborder Sacrosanctum Concilium, c'est le frère Joël-Marie Boudaroua qui va prononcer cette conférence. C'est aussi une des quatre constitutions conciliaires promulguées par le Concile Vatican II. Et là, justement, il est question de la liturgie.
C'est son objet, c'est celle sur la liturgie. Donc, il présentera justement l'approche du Concile sur la liturgie de l'Église et les apports spécifiques, justement, du Concile sur le sujet. Nous le disions tout à l'heure, c'est le texte qui est porteur de la grande rénovation de la liturgie de l'Église. L'Église est un vivant, il est parfaitement normal que sa liturgie vive également. Mais c'est ça qui est très intéressant, comme toujours dans l'Église, c'est qu'on fait du nouveau toujours sur le fondement de l'ancien. Eh bien, c'est vrai en matière liturgique, comme c'est vrai en matière dogmatique, comme c'est vrai en matière morale, si vous voulez, ou d'éthique chrétienne. Et donc, l'un des grands intérêts, c'est de voir comment, justement, le Concile Vatican II apporte une rénovation de la liturgie de l'Église. Pourquoi ? Pour une vie toujours plus grande. La liturgie est au service de la vie des fidèles, si vous voulez, pour qu'ils puissent vivre mieux, le mieux possible en tout cas, leur vocation telle qu'elle a été précisée ou qu'elle va l'être d'ailleurs dans la constitution dont on va parler maintenant, c'est-à-dire Lumen Gentium.
Voilà, Sacrosanctum Concilium avec le frère Joël-Marie Boudaroua le 9 octobre et donc une semaine plus tard, le 16 octobre, Lumen Gentium avec le frère Benoît Dominique de la Soujol. Lumen Gentium, lumière des nations.
Des nations,
je traduis
absolument.
Littéralement.
Lumière des nations, je précise d'ailleurs, lumière des nations, ce n'est pas l'Église, c'est le Christ. Hein.
Oui, Lumen c'est Gentium, le Christ qui est lumière des nations.
Christus, mais comme le dit de façon très très belle Lumen Gentium dans son premier numéro, précisément la lumière du Christ a vocation à se refléter sur le visage de l'Église. Hein. Ce fameux, vous savez, mystère de la lune, cette image patristique qui était très chère au pape François, de la même façon que la lune brille de la lumière du soleil, l'Église a vocation à briller de la lumière du Christ. Et c'est par précisément cette lumière du Christ que reflète l'Église que les hommes sont attirés au Christ, en principe, bien entendu. Et c'est la grande image inaugurale, si vous voulez, de la Constitution. Et donc, on va parler de l'Église en elle-même. Hein. On l'évoquait tout à l'heure. Donc, c'est celle qui s'intitule Constitution dogmatique sur l'Église, qui va présenter l'Église dans son mystère, l'Église également, comme vous le disiez, comme sacrement, mais à travers les grandes analogies et en précisant quantité de points qui étaient en suspens. Vous voyez, j'en cite un au passage, le statut de l'épiscopat, si vous voulez, comme sacrement. Hein. C'est une chose qui ne suscitait pas un assentiment général à la veille encore du Concile. C'est le Concile Vatican II qui affirme très solennellement la sacramentalité de l'épiscopat, en disant qu'il est le premier degré, et le degré le plus haut, de l'unique sacrement de l'ordre, hein, qui connaît trois degrés, l'épiscopat, le presbytéral, le diaconat. C'est la première fois qu'on le dit.
Lumen Gentium, lumière des nations, le 16 octobre, avec le frère Benoît-Dominique de la Soujol. Ensuite, c'est le 6 novembre qu'a lieu la conférence suivante. Alors, c'est vous qui allez la prononcer, celle-ci. Gaudium et Spes, joie et espérance. C'est une constitution pastorale cette fois-ci et sur l'Église dans le monde de ce temps, point que nous évoquions en première partie d'émission.
Voilà, et si j'ose dire, c'est le deuxième grand volet après la constitution dogmatique où l'Église, au fond, dit ce qu'elle est, dans la lumière de Dieu, bien entendu. Ça va être la posture et le discours de l'Église par rapport au monde. Alors, en fait, c'est un texte extrêmement ample. Initialement, d'ailleurs, il avait été projeté, si vous voulez, de faire un seul texte sur l'Église, hein, à la fois dogmatique et traitant du rapport de l'Église au monde. Puis on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop ample, considérable. Et donc, à la première session, d'après les décisions de scinder en deux. Et donc, on aboutit à cette constitution. Donc, Gaudium et Spes, c'est elle qui va traiter du rapport de l'Église au monde. Alors, attention, c'est effectivement son titre, Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps. Mais il y a des aspects très dogmatiques dans cette constitution pastorale. Hein. C'est là, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler, que vous avez, au fond, pour la première fois, un exposé de l'anthropologie chrétienne, pour expliquer et dire au monde de ce temps comment nous concevons précisément la personne humaine, les communautés humaines. Hein, les aspects politiques sont largement pris en compte. Et comment, justement, les hommes se situent par rapport à cela. Hein. Et puis, il y a quantité de sujets qui sont abordés.
Ça, c'est clairement un des principaux textes, je crois, issus de Vatican II. Hein.
Bien entendu, et qui répond à un projet très initial, nous l'avions dit, de Jean 23, puis de Paul VI.
Gaudium et Spes, avec le frère
François. Les joies et les espérances, voilà, des hommes de ce temps.
Avec le frère François Daguet, le 6 novembre. Deux semaines plus tard, le 20 novembre, là, c'est Ad Gentes qui va être abordé vers les peuples. Je traduis là aussi littéralement. C'est le frère Gilles Danroc qui va donc prononcer cette conférence sur ce décret sur l'activité missionnaire de l'Église.
Alors ça, c'est typiquement un décret qui développe, si vous voulez, l'un des points de la Constitution Lumen Gentium, qui traitait justement de la mission, mais brièvement. Et on s'est rendu compte, évidemment, c'est un thème considérable dans l'Église, donc il fallait un texte particulier. Donc il y a un décret qui va traiter très spécialement de la mission de l'Église. Donc c'est ça qui sera présenté. Là encore, au vu, évidemment, en tenant compte de 2000 ans presque de mission de l'Église ou d'activité missionnaire, et mais en même temps en le formulant pour notre temps. Par exemple, pour n'évoquer qu'un point, l'un des lieux très, très sensibles de ce décret Gentes consiste à dire, mais attention, c'est pas seulement les pères missionnaires ou des religieux ou des religieuses qui sont missionnaires, non, tous les fidèles, tous les baptisés participent à la mission de l'Église. Il y a une mission de l'Église à laquelle participent, à des titres différents, tous ceux qui en sont membres. Ça a l'air de rien, ça paraît tout à fait évident aujourd'hui. C'est une mise au clair très nette.
C'est une petite révolution tout de même.
Voilà, mais de très grosse portée également pastorale, parce que c'est comprendre également que le moindre baptisé a vocation à être missionnaire là où il est. En substance que l'appartenance au Christ, tout simplement, ne peut pas rester une affaire purement privée.
Adventes vers les peuples avec le frère Gilles Doroc, donc le 20 novembre, et puis le 4 décembre, le frère Philippe-Marie Margelidon prononce une conférence sur un autre décret du Conseil Vatican II, Unitatis Redintegratio, rétablissement de l'unité, entre parenthèses des chrétiens, c'est ce que ça veut dire, c'est l'unité
Absolument.
Des chrétiens, et là aussi ça concerne l'œcuménisme, entre autres.
Bien entendu, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs souvent le décret sur l'œcuménisme, et alors là qui affiche bien, je dirais, le projet d'ensemble qu'on a déjà évoqué, vers le recouvrement de l'unité. Et donc, c'est un exposé, pour la première fois là encore, les premières bases sont posées dans la Constitution Lumen Gentium, mais il fallait développer ça, c'est un exposé de la conception catholique du mouvement œcuménique. Il faut bien voir que lorsque Vatican II se tient, le mouvement œcuménique a une centaine d'années, j'exagère à peine, derrière lui, un petit peu moins pour l'Église catholique qui l'a rejoint plus tardivement au début du XXe siècle, mais c'est quelque chose d'extrêmement important. Le mouvement liturgique, le mouvement œcuménique font partie de ces grands mouvements qui ont été porteurs, si vous voulez, de Vatican II. Sur le coup, on ne le savait pas, mais ça a largement contribué à cela. Et donc, ça répond à cette préoccupation première et qui ne doit jamais nous quitter et qui est parfaitement actuelle du fait que, au fond, la division des chrétiens doit être pour nous quelque chose d'insupportable. Pourquoi ? Parce que c'est directement contraire à ce que le Christ a voulu. Qu'il soit un comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Et j'ai été très frappé parce que vous savez qu'on a beaucoup reproché justement aux certains, dans certaines franges, à l'œcuménisme catholique d'avoir affaibli l'Église justement. Mais l'œcuménisme, le mouvement œcuménique, c'est une nécessité attachée à l'essence même de l'Église. Pourquoi ? Parce que nous ne pouvons pas nous satisfaire de la division des chrétiens qui est le pire contre-témoignage rendu à l'œuvre du Christ.
Et deux semaines plus tard, le frère Éric Paulet intervient sur un autre décret, Presbyterorum Ordinis,
l'ordre
des prêtres,
c'est-à-dire
l'ordre
des prêtres.
Et donc là, ce qui est concerné, c'est le ministère et la vie des prêtres.
Voilà, et aussi très, très spécifiquement leur formation. Là encore, à cette époque, si vous voulez, on prend conscience qu'il faut rénover les principes et la pratique de la formation, notamment du clergé, du prêtre, dans un contexte, comme nous l'avons évoqué en commençant, complètement renouvelé. Vous comprenez ? Être prêtre en période de chrétienté et au milieu de populations qui sont toutes chrétiennes, ou en tout cas qui ont vocation à l'être, ou qui cherchent à l'être, et être prêtre dans un monde qui s'édifie sur des bases profanes, ce n'est pas du tout la même chose.
Le 8 janvier, avant-dernière conférence, elle est donnée par le frère Édouard d'Ivry. Alors, le thème, c'est « Dignitatis humanae », de la dignité humaine. Et là, ce qui est au centre, c'est la liberté religieuse sur laquelle se fondent les relations de l'Église avec les gouvernements séculiers.
En particulier, et c'est un thème évidemment extrêmement important, très débattu depuis le 19e siècle, justement dans ce contexte de sécularisation des sociétés civiles. Comment comprendre la liberté religieuse, et pour le dire d'un mot, là encore, la liberté religieuse n'est pas, selon le Concile, la liberté laissée à chacun de choisir ou d'adhérer à n'importe quelle vérité selon son choix. Non, la liberté religieuse pour l'Église, et à travers cette déclaration, c'est ce qu'on appelle en droit français une liberté publique, c'est-à-dire le droit à pouvoir vivre sa vie religieuse, pour les individus comme pour les groupes, indépendamment et en toute immunité de toute contrainte, et en particulier de la part des pouvoirs politiques.
Et enfin, le 22 janvier, dernier rendez-vous de ce cycle de conférences avec le frère Corentin Peuzet. Et là, il va nous parler de Nostra Aetate, à notre époque, hein, c'est la traduction, le sujet, ce sont les relations de l'Église catholique avec les religions non chrétiennes.
Voilà, en tout cas, les déclarations de l'Église sur les religions non chrétiennes. Donc, là encore, une des très grandes innovations dans la doctrine qui découle des grandes affirmations de la Constitution Lumen Gentium. Hein. Là encore, c'est un déploiement. Alors, c'est un texte bref, mais très important dans certains domaines. Et en particulier, pour ne citer là encore qu'un seul lieu, c'est là que sont précisées les conditions d'un renouveau complet du regard de l'Église sur le judaïsme. Et donc les relations entre l'Église et Israël, je parle d'Israël au sens biblique, religieux du terme, à partir de là, vont pouvoir se transformer de façon tout à fait radicale. Et c'est un mouvement qui continue encore de nos jours.
Voilà donc pour ces 9 rendez-vous du cycle de conférences que vous consacrez à Vatican II, 60 ans après la clôture du Concile. Alors il y aura évidemment des séances de questions-réponses à la fin de chaque conférence.
Bien sûr, comme d'habitude.
Le public pourra s'exprimer et demander des précisions. Est-ce qu'elles seront enregistrées? Je dis ça pour ceux qui malheureusement pourront pas y assister et qui l'auraient souhaité.
En principe, elles sont enregistrées, même filmées et mises en ligne sur le site du couvent.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup d'en avoir été l'invité, frère François, et de nous avoir présenté ce cycle de conférences organisé au couvent des Dominicains de Toulouse à Rangueil, dédié à Vatican II à l'occasion du 60e anniversaire de la fin du Concile. Il commence ce jeudi 25 septembre. Toutes les conférences ont lieu à la salle du chapitre à 20h30. La première est consacrée à la constitution Dei Verbum. Elle va être prononcée par le frère Henri Donneau. J'invite nos auditeurs à consulter le site internet des Dominicains de Toulouse, www.toulouse.dominicain.com, pour retrouver les dates et les thèmes de chaque conférence. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Francky Guéret. Excellente journée à tous à l'écoute des programmes de Radio Présence.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.